Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Vous savez très bien que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h. Nous sommes ensemble pour le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays. Bienvenue à tous et à toutes. Le calendrier des prochaines municipales a subi une légère modification initialement prévue pour le 10 juillet. C'est plutôt le 17 juillet que les Togolais iront aux urnes pour choisir leur conseiller municipal. Par conséquent, la date limite de dépôt de candidature est repoussée au 1er juin 2025. Nous aborderons le sujet dans cette émission puisque le sujet nous intéresse. Nous aborderons aussi d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Nous parlerons bien sûr de tout cela dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 30 mai 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitog et Tomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Kouptouazi à Dapan. Club de la Presse, vous savez que vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, je le disais, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo et du continent africain et aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au vendredi, confrères journalistes déjà présents dans ce studio avec moi, c'est Firmé Teko Agbo. Firmé, bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Oui, oui, nous allons bien avec la grâce de Dieu. Même si l'actualité politique semble un peu animée, on va bien. C'est ça qui m'intéresse.
Ça fait du bien quand même quand l'actualité politique est animée, ouais, puisque ouais. Ça nous donne aussi de la matière.
Évidemment, ça aide à réfléchir. Ça aide à réfléchir mille et une fois et à analyser et à élever et à chercher toujours à élever le sens de l'analyse et de critique. Donc moi je dis que nous allons bien. Que Dieu bénisse le Togo.
Que Dieu bénisse le Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation, Oro Sama. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à Lomé et puis dans les localités environnantes.
J'espère que vous allez bien.
C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau et tout le plaisir également de retrouver vos millions d'auditeurs qui nous suivent de par le Togo et à travers le monde.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait toujours plaisir pour nous aussi de t'avoir dans cette émission et de faire le décryptage de l'actualité, d'apporter votre analyse aussi à cette émission. Merci d'avoir accepté cette invitation. L'autre qui est aujourd'hui en béninois, on dirait... C'est bien Gabin Adjaro. Gabin, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Radiophile et bonjour surtout à tous ces Togolais, à tous ces Africains-là qui nous suivent de par le monde, par le biais de l'Internet, parce que j'ai eu des retours. Comme quoi, bon, il y a beaucoup de Togolais et des étrangers qui nous suivent de par le monde et j'aimerais chaleureusement les saluer, spécialement les Béninois, parce que bon, ces deux jours, j'ai été quand même à Cotonou.
Mais ça, c'est
Donc, du coup, c'est hier que je suis rentré. Il faut dire que l'atmosphère politico-togo c'est toujours une bonne chose hein, qu'il y ait des critiques et tout. Et le plus important, qu'on arrive à tirer le son de ces critiques-là pour faire évoluer le pays. Pour moi, c'est ça le plus important. Et merci surtout de m'avoir invité.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Vous l'avez si bien dit, ces critiques, peut-être que nous apportons à travers nos analyses, c'est justement pour la construction de notre nation. Voilà. Et il est très important quand même que nous prenons tout sportivement et qu'on arrive à mettre en application hein, ce que nous disons pour que notre pays aille mieux. C'est ça aussi l'essentiel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons une invitée ce matin, une invitée surprise. Mais avant quand même d'aller vers l'invité, je ne sais pas si vous avez commencé par suivre l'émission qui est venue avant l'émission Club de la Presse sur Canal FM, puisque nous étions en train de faire une synchronisation avec Radio Lomé. On parlait de la CET pour expliquer un certain nombre de choses hein, sur ce qui se passe, les dysfonctionnements aujourd'hui. Mais bizarrement, vu et constaté, Gabin, en pleine émission alors de la CET, on coupe le courant.
Ah, voilà les réalités actuellement du pays hein, en pleine émission de la société. Et moi, je suivais véritablement cette émission-là. J'étais en train de suivre quand il y a eu des lestages, ça commençait pas à faire haut. Je me suis dit, ben, que s'est-il passé? D'autant plus que c'est la société elle-même qui est quand même sur les ondes. Moi, j'étais un peu perplexe par rapport à cela. Je me suis dit, ben, alors là, le mal est assez profond. Le mal est assez profond, d'autant plus que pour moi, pour le moment, c'est pas à ce moment-là qu'on doit faire la communication. La communication, ça doit venir en amont. Mais aujourd'hui, on a décidé de communiquer après, hein, surtout que les populations commençaient pas à comprendre certaines de choses sur leurs factures. C'est là qu'il y a du remous au sein de la population. Et là, aujourd'hui, la société sort un communiqué et puis après, essaie de communiquer autour de cette affaire. Et bizarrement, encore en pleine émission, il y a des lestages. Je me dis, le mal est profond et le mal ne touche pas que la population, mais même la société.
Samir, finalement, le mal ne touche pas que la population, même la société aussi subit.
Ben écoutez, Pascal, vous connaissez ma position sur le sujet. Vous savez que l'espace communautaire, que ce soit Yomoua ou la CDAO, nous sommes gangrénés par trois principaux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a une cherté de l'énergie dans notre sous-région. Le deuxième problème, c'est que nous avons des coupures intempestives. Et ce n'est pas une particularité togolaise. Quand vous promenez un peu, je pense que Gabin était au Bénin. Il pourra témoigner d'ailleurs également dans des pays voisins comme le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, même le Nigeria qui vend de l'énergie donc à des pays comme les nôtres. Il y a également des coupures. Donc c'est une réalité. Sauf qu'en fait, quand vous avez en face une problématique de ce genre qui devient répétitif, vous devez en tant que gouverneur trouver des solutions idoines, ce qui n'est pas le cas parce que au Togo nous avons fait un constat que nous n'avons pas une souveraineté énergétique et le ministère des mines et des ressources énergétiques, je pense en fin d'année 2024, a fait, a sorti un communiqué en faisant le point sur les besoins donc du pays en termes de déficit énergétique et nous sommes obligés d'aller chercher l'énergie ailleurs, ce qui est pour moi déplorable parce qu'en fait l'énergie est devenue aujourd'hui une tarée importante pour nous permettre de vaquer librement à nos occupations. Pour manger, on a besoin de l'énergie. Pour se vêtir, on a besoin de l'énergie. Pour se laver, on a besoin de l'énergie. Pour produire, on a besoin de l'énergie. Pour vendre, même, on a besoin de l'énergie. D'ailleurs, votre radio a besoin de l'énergie pour fonctionner. Et vous avez vu que si ce n'est pas que vous avez un groupe de relais, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des entreprises au Togo, cette émission n'allait pas avoir lieu véritablement. Donc je pense que les autorités togolaises doivent prendre ce problème à cœur et véritablement trouver des solutions idoines parce qu'en fait, moi je l'ai toujours dit, gouverner c'est prévoir. On peut pas trouver des justificatifs à un problème qui est permanent, qui dure depuis longtemps et qui perdure et qui véritablement empêche les Togolais de vaquer librement à leurs occupations. C'est un manque à gagner pour notre économie, c'est un manque à gagner pour l'État, parce que l'État a besoin de mobiliser les ressources.
D'accord, merci Samir, merci.
C'est pas encore le débat.
Mais
30 secondes, ce que Samir vient de dire est assez important comparativement à d'autres pays et autres. C'est vrai, il y a des lestages au Bénin, au Nigeria et autres, mais le Nigeria, c'est un pays qui vend assez d'énergie, c'est un pays affairiste, hein, où ils vendent de l'énergie aux autres.
d'autres pays.
D'autres pays, ce qui fait que les populations sont conscientes de cela. Et puis, toutes les maisons, chacun a son groupe électrogène. C'est comme ça, chacun a son générateur dans sa maison. Maintenant, ici, chez nous, au Togo, même au Bénin, ici, ben, quand tu vois l'espace qu'occupe hein, le central qui fournit l'énergie au Bénin et l'espace que couvre la société, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc, on ne peut pas comparer cela au Togo. Le plus important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, la société fait une cure, que la société se ressaisisse véritablement. Et surtout, avec tous les projets qu'on a eus, dans les normes, on ne devait plus avoir de problèmes énergétiques. Avec les projets CISO, avec les projets Contour Global et autres. Ben, ouais. Dans les normes, on nous a promis qu'avec cela, on aurait une certaine indépendance énergétique. Mais aujourd'hui, le constat est là et qu'on n'a pas cette indépendance-là. Et certaines centrales solaires qui sont en train d'être construites. D'autres qui sont déjà là, mais essayez de visiter. Vous verrez le nombre de plaques qui fonctionnent. Il y a plusieurs plaques sur des hectares, mais il y a que quelques dizaines, quelques vingtaines qui fonctionnent sur
cet espace.
Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et j'ai eu à faire cette enquête-là. J'ai eu à discuter avec ceux-là même qui travaillent sur ces centrales. Donc, à un moment donné, on doit se poser véritablement des questions parce que on ne peut pas avoir une centrale solaire dans une ville et puis il y a délestage de plus de 5 heures de temps, plus de 6 heures de temps, alors que cette ville-là est censée être alimentée par cette centrale quand la société va
couper. Merci beaucoup. On reviendra sur le sujet, je vous rassure, on parlerait de ce sujet alors dans émission, puisque c'est un sujet qui fait justement l'actualité. Mais Firmin, je voudrais quand même que vous vous prononciez aussi sur le sujet, c'est-à-dire pour ce vieux constaté en plein émission d'explication de la société, on coupe le courant.
Non, en fait, il faut reconnaître que ce n'est pas quelque chose de grave dans la mesure où si on a coupé le courant à ce moment précis-là, c'est parce que cela faisait partie de leur zone de coupure. Cette zone, Canal FM, faisait partie de leur zone d'occupée. Peut-être ils n'ont pas pris toutes les mesures.
C'est pas
pouvoir...
c'est Radio Lomé.
Pardon ? Oui, peut-être de Radio Lomé.
Puisqu'on était en synchronisation.
Et de la zone, ça faisait partie de leur lieu, de leur zone de coupure de la journée. Mais le problème est très simple, vous savez. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que quand vous allez au supermarché, les choses vont commencer par devenir de plus en plus chères. Parce que c'est le courant. Quand vous allez venir aujourd'hui à Canal FM pour commander des annonces, publicités, tout ça, là, ça va augmenter partout. Ça va augmenter. Mais il faut juste que les autorités arrivent à comprendre ceci. Vous savez, il y a la démographie qui devient de plus en plus importante. Donc, les besoins sont en train de connaître une croissance extraordinaire. Donc, la simple chose à faire, c'est d'aller chercher des moyens pour pouvoir alimenter tout le pays en matière d'électricité. Sinon, les jours prochains à venir s'annoncent difficiles. Que les Togolais le sachent.
D'accord, merci. Je parlais alors de cette invitée surprise que nous avons. Takol, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est avec plaisir, merci de m'inviter.
D'accord, et cette voix mélodieuse nous manque toujours et là nous sommes encore nous sommes avec cette voix mélodieuse. Mais cette fois-ci nous n'allons pas parler de musique puisque on vous connaît en tant qu'artiste de la chanson togolaise. Mais aujourd'hui j'ai un livre entre mes mains et avec ce livre, le livre est titré bien sûr « Musique, foi et compassion, une vie au service de la guérison et de l'espérance ». Alors, je lis à la quatrième de couverture, ceci. Oui. Née Amina Koulani, Antakol est une artiste franco-togolaise, administratrice, pardon, de projets culturels, musicothérapeute, diplômée et formée au conservatoire, engagée dans l'évangélisation et l'action humanitaire. Elle unit les rythmes africains, la louange chrétienne et le service aux plus vulnérables. Son parcours exceptionnel fait d'elle une voix unique au carrefour de l'art, de la foi et de l'engagement. Alors, est-ce que vous reconnaissez alors dans cette définition qu'on a donnée à votre personne?
Tout à fait, puisque je suis auteur de ce livre et tout ce qui est à l'intérieur de ce livre, c'est une grande, grande partie de moi que je suis en train de révélé. On me connaît en tant que Amtakol, en tant que chanteuse, musicienne. Maintenant, il y a des volets qui nécessitent d'être mis au vu et au su de tout le monde. Tout à fait, ça, c'est exactement moi.
D'accord. Amtakol, alors, entre la musique et l'écriture, comment le pas a été franchi?
Et déjà, il faut dire que je compose mes morceaux. J'écris déjà mes morceaux. Mais alors là, le livre, là, je l'avais pas programmé. C'est arrivé tout d'un coup où je me suis dit, je vais mettre à jour mon CV, je vais mettre à jour mon parcours. Et puis, allez, paf, c'est parti. Et comme j'ai l'habitude de me laisser guider, j'ai juste laissé l'esprit prendre toute la place. Et donc, on parle de livres. Et quand je dis, j'ai pas écrit pour raconter ma vie, mais j'ai écrit pour semer des vies. Et donc, ce qui est à l'intérieur de ces livres est très vivant.
Ce qui est à l'intérieur est très vivant. Et c'est vrai, on en parlait tout de suite au micro. Ça dit, à peine vous prenez le livre, vous commencez par déchiffrer les premiers mots. Vous avez envie alors de terminer l'ouvrage. Comment vous l'avez fait?
C'est la grâce. C'est la grâce. Et j'ai écrit ce livre en 4 semaines. Dans 4 semaines, sans arrêt. Et même il y a des moments où il faut se reposer, il faut dormir, mais ça peut me réveiller à tout moment et des idées peuvent venir, des paragraphes peuvent arriver. Et quand je me dis je vais me lever, je vais noter, et je n'ai pas écrit sur papier, j'ai juste ouvert ma page. Donc à chaque fois j'ai mon ordinateur à chaque fois à côté, dès qu'il y a quelque chose j'écris. Donc moi-même, je me retrouve en face de quelque chose que je découvre de moi.
J'ai pris le temps alors de me régaler avec ce livre et j'ai trouvé cela très plaisant avec des témoignages également à l'appui. Mais au-delà même d'un livre, est-ce que moi personnellement je trouve un outil alors de thérapie? Et c'est pour cela même d'ailleurs que vous parlez alors de la musicothérapie. La musicothérapie, c'est vrai, dans nos communautés, on ne comprend pas assez. Qu'est-ce que c'est?
Bon, je veux dire, quand on parle de la thérapie, il faut faire la thérapie à ceux qui sont demandeurs, déjà, puisqu'on se positionne dans un contexte d'hôpital ou de patient, alors que dans la vie de tous les jours, nous sommes sans cesse en train de faire une thérapie. Maintenant, quand on sort dans le cadre de la société, il y a des endroits où, quand les gens sont en souffrance, vont aller voir des thérapeutes, des psychologues, des médecins, des psychiatres, ainsi de suite. Mais quand je prends la société africaine, d'ailleurs, quand j'écris ma soutenance pour la musicothérapie, le thème que j'ai travaillé, c'est les effets des rythmes et sons africains sur le corps. Nous sommes sans cesse en train de bénéficier non pas uniquement de la musique, mais de la sonorité, parce que quand on parle musique, on peut s'attendre à voir écouter une mélodie, un rythme, c'est bon, c'est pas bon, c'est dansant ou c'est pas dansant, mais dans la musique, nous avons les silences, nous avons les pauses, nous avons la note de la tonalité de départ qui va donner la couleur de la note, soit c'est aigu, soit c'est bas. En ce moment, beaucoup ont le moral dans les chaussettes, très bas. Ou alors, on va avoir des personnes qui vont être très, très dans la hauteur. Donc, on va dire que c'est très haut, c'est aigu. Mais quand on prend la musique en elle-même, on a la clé qui détermine, qui donne le ton. Tout à l'heure, on a parlé de la situation de la société qui a donné le ton. Le ton qui a déclenché la coupure et la coupure qui a provoqué des réactions. Hein? Donc, la tonalité de notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui va faire que ce matin, je ne suis pas très en forme, ou je suis au ralenti, ou je suis fâché, ou je ne sais pas ce qui m'arrive, mais on va dire, je suis pas dans mon assiette. Voilà.
Ça veut dire que la musique en soi constitue même d'ailleurs un outil de guérison pour nous.
La musique seule ne peut pas constituer un outil de guérison, parce que pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait un soignant, un soigné, il faut qu'il y ait un outil thérapeutique et un cadre thérapeutique pour y faire la chose. Mais je veux dire que dans la société africaine, par exemple, comment se fait-il que à chaque carrefour de nos vies, qu'il y a une essence, on est content, on va faire, on va mettre la musique, on va danser. Il y a les décès, on pleure le décès de quelqu'un, mais il y a la louange ou les rythmes ou les traditions ou la musique pour accompagner le mort jusqu'à sa dernière demeure. On prend l'exemple d'une bonne femme au foyer qui a peut-être une situation compliquée dans son foyer généralement. En tout cas, moi, dans mon époque, hein, j'ai vu ma mère chanter continuellement à la maison. Il a fallu que je devienne thérapeute pour analyser certaines choses, pour dire, il y a certaines chansons que ma mère fredonnait, ça a dû chauffer, peut-être hier soir, j'ai jamais vu mon père et ma mère s'engueuler, mais les chansons qu'elle va chanter, on va se dire que, il y a de l'oxygène dans l'air, il y a du gaz dans l'air, dans l'air, et ou alors, les bonnes femmes dans le temps qui traversent des situations, de couple, ou bien ceux qui sont dans les maisons où il y a des locataires, quand l'un ou l'autre se fâche, l'autre va commencer à chanter des chansons, et même le temps de l'esclavage. Nos ancêtres, quand ils ont traversé les frontières, ils avaient quoi? Ils avaient juste leur voix, ils avaient le gospel pour exprimer. Donc, en chantant dans les plantations de canne à sucre et tout ça, ne serait-il pas une forme de consolation qu'elles étaient en train de se donner, et ne serait-il pas une forme de thérapie? Je vais dire autothérapie.
Alors, d'accord, je lis cette citation, hein, cette oui. citation venant de vous. Vous écrivez, lorsque la musique est habitée par la foi et l'amour, elle devient un canal de guérison pour les âmes blessées. Là où la musique touche l'âme, l'esprit souffle. Là où la foi chante, la vie renaît. C'est bien Antakol?
Oui, tout à fait. Parce que je fais l'expérience. Et ce que l'on fait dans tout domaine, si l'on le fait vraiment, sincèrement, avec le cœur, et le résultat n'est pas pareil. Quand on me dit de faire, et je fais parce qu'on me dit de faire, ou bien je dois le faire parce qu'il faut le faire, je vais le faire, ça va donner un résultat, mais si je le fais, et parce que je le fais sincèrement, au plus profond de moi-même, avec mon cœur, mon âme et tout ce que je dispose en moi, eh bien l'effet est toujours différent. Vous savez, moi je suis devenue musicothérapeute, simplement aussi, étant musicienne, étant quelqu'un qui fait des scènes, moi-même, après la scène, je me retrouve avec une énergie extraordinaire, prête à recommencer. Il a fallu qu'une dame pleure à un de mes concerts, ce qui arrive souvent, et qui est venue vers moi pour l'orthographe avec des larmes, et qui me sort cette phrase « Votre voix m'a guéri ». Et elle va commencer à me raconter sa problématique. Et ce témoignage-là était un peu troublant pour moi. Alors, je me dis, mais si moi-même je me sens de telle manière et que les gens commencent à me dire, quand tu as chanté, j'ai senti ci, il y a eu ça, j'ai poussé plus loin, j'ai pris simplement mon ordinateur, hein, j'ai tapé sur Google la voix qui fait pleurer, la voix qui guérit, la voix qui... J'ai donné tous les noms possibles, j'ai tourné la voix dans toutes les sens, dans tous les sens, et je vais voir devant moi musicothérapie. Et j'ai approfondi ma recherche et je me suis dit, ah, je comprends, alors ce que je peux vivre, ce que les autres peuvent vivre, je vais me former. C'est comme ça que je me suis lancée pour être aujourd'hui cette musicothérapeute. Donc, je veux dire que c'est pas, on peut trouver 10 000 musicothérapeutes, mais selon nos postures, selon nos engagements, selon la disposition de notre cœur et selon le regard thérapeutique que nous avons par rapport aux personnes que nous accompagnons, c'est aussi ça, cet ensemble-là qui va définir la guérison. Maintenant, moi, au milieu de tout ça, j'ai mis ma foi aussi.
C'est important.
Donc, j'y vais en tant que professionnel, j'y vais en tant que cet artiste qui n'est pas ignorante de ce qu'est la musique, et j'y vais avec ma foi et j'y vais avec une posture. Et donc, tout cet ensemble-là va permettre que le sujet que j'ai en face de moi sera réceptif. Moi, j'ai beau donner tout ça, si le sujet n'est pas réceptif aussi, ça ne marche pas. Donc, je crée mon cadre thérapeutique, je crée la confiance, je mets la foi au milieu, la compassion. Vous savez, pour ceux qui sont croyants, on va dire à chaque fois que le Christ a fait un miracle, on dit Jésus ému de compassion. Quand on a un cœur compatissant, quand on a la compassion, je pense déjà qu'on a un regard différent par rapport à l'autre, et la compassion elle-même déclenche des choses invisibles que l'humain courant ne peut pas saisir. Et on va dire, il y a eu guérison, mais il y a la disposition de la personne qui apporte la guérison et la personne qui est demandeur aussi.
D'accord. Oui, mais en tout cas, quand on prend déjà la musicothérapie en soi, comment ça se pratique pour que soit une âme soit guérie et qu'on ait soit un patient devant soi, comment le processus se passe jusqu'à ce que la personne ne soit guérie?
Alors déjà, le champ de la musicothérapie est très 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 vaste. La musicothérapie n'est pas uniquement destinée, c'est vrai, moi je travaille dans un hôpital psychiatrique. Donc, j'ai les personnes en souffrance, des exemples palpables devant moi, mais le champ de la musicothérapie est très, très vaste. C'est monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, la musicothérapie, la musique va devenir un support pour rentrer en relation avec cette personne qui est en souffrance. Nous savons tous que le mal de la société, à quelque étage que ce soit, c'est la communication. Si on n'arrive pas à communiquer des choses qui nous font mal, qui nous font souffrir, ces choses sont étouffées en nous. Et quand ces choses sont étouffées en nous, ça va déclencher des stress. Ça va déclencher la dépression. Et quand la tête est malade, quand on a mal à la tête, pourquoi le pied ne peut pas aller travailler? Et donc tout le système va être progressivement infecté. Donc nous utilisons la musique, hein, le son, les rythmes ou les sonorités en tant que support pour simplement rentrer en communication avec les personnes en souffrance et les amener vers un mieux-être.
D'accord. C'est vrai que j'ai pris le temps nécessaire de lire l'ouvrage. Et l'ouvrage est subdivisé en 12 chapitres. Alors concrètement, dans chaque chapitre, qu'est-ce qu'on y trouve?
Dans chaque chapitre, vous allez trouver le côté artistique de Amtakol, hein. Vous allez trouver l'autobiographie, vous allez trouver comment je me positionne aussi en tant que musicothérapeute, ma relation avec les patients ou les sujets que j'ai vus. Vous allez trouver les témoignages des choses invraisemblables qui me sont arrivées. Parce que au-delà de la thérapeute, ma foi des fois a travaillé sur le champ avec les veuves, les orphelins que je m'en vais visiter, hein. Donc on va trouver la caravane d'Afrique, on va trouver les projets à venir aussi.
On va trouver les projets à venir aussi, Antakol. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Et quel est votre mot de la fin, hein, par rapport à cet entretien que nous venons de mener sur l'ouvrage, votre ouvrage intitulé Antakol, musique, foi et compassion, une vie au service de la guérison et de l'espérance.
Vous savez que je suis toujours fière de porter l'Afrique et plus particulièrement de rentrer dans mon pays quand je dis quand on rencontre on trouve quelque chose de beau, on ramène chez soi. Donc le 4 juin, je serai, la Bibliothèque nationale me fait l'honneur de me recevoir à 16h le 4 juin pour la présentation officielle de ce livre, et ceux qui en souhaitent en avoir pourront également s'en procurer.
Maintenant, c'est à combien, si peut-être c'est déjà disponible, l'ouvrage?
C'est disponible. Alors, le modèle que vous avez, c'est les exemplaires, hein, que j'ai ramenés de la France, mais je me dis aussi que il y a des gens qui sont des professionnels sur place, dont j'ai travaillé, si je ne fais pas de pub, avec Audi, qui est en train de me sortir des exemplaires pour que ceux qui sont désireux puisse l'avoir. Et je le dis ici haut et fort que je ne voudrais pas que ce livre dépasse 10 000. Le prix de 10 000 francs CFA, ce n'est pas un prix de vente, c'est juste pour couvrir les frais de... Voilà. Et ce serait vraiment bien que chacun puisse s'en procurer, parce qu'il ne s'agit pas d'un livre, il s'agit d'un outil de vie.
Justement, non seulement un outil de vie, mais un outil de thérapie, et parce que je l'ai lu, et je sais de quoi je parle. Merci, merci beaucoup.
Hein, merci Patron. De me recevoir.
Merci beaucoup, merci, merci d'être passé alors dans cette
J'espère émission. Vous trouver bientôt le 4 juin.
Merci beaucoup pour la dédicace alors de cet ouvrage. Merci, tout compte fait, vous pouvez rester aussi avec nous, hein, pour suivre le débat avec nous, si votre temps vous le permet. Et...
Je pense que je vais suivre quand même un peu l'actualité de mon pays, c'est l'occasion.
C'est l'occasion, bien sûr. Nous sommes rejoints par Germain Pouli. Germain, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Bonjour à tous les confrères ici présents et bonjour surtout à Amtakol, qui est l'une des plus belles voix du Togo, en tout cas de la génération 90. Nous, on l'a connue à ses débuts avec l'orchestre de l'Université du Bénin à l'époque.
C'est vrai.
Ça, voilà, dans les années 90.
C'est un acteur culturel, Germain Pouli.
C'était extraordinaire ce qu'elle faisait à l'époque. Malheureusement, je ne sais pas, elle a quitté très tôt le pays. Elle n'a pas su profiter assez largement de sa carrière.
Mais puisque peut-être le devoir l'appelait aussi ailleurs.
Voilà. Donc, c'est avec beaucoup de bonheur que je la retrouve aujourd'hui ici au club. Et savoir aussi qu'elle a su mettre son art à la disposition de ceux qui en ont besoin, surtout sur le plan médical. Je crois que c'est une grande bénédiction. Et ben, on l'encourage, que Dieu l'aide dans cette mission. Associer cette passion qui est la musique à quelque chose d'aussi important qui est la guérison et la santé. Je pense qu'elle a trouvé sa voie, c'est un peu rare par ici. Et espérons aussi que le Togo puisse profiter de ce don-là. Encore une fois, félicitations pour...
Merci, merci. Ça, c'est des beaux souvenirs, ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Germain Pouli. Nous démarrons cette émission ou ce débat avec cette question de la société, puisque nous en parlions même avant notre invité surprise. Samir, je ne sais pas si ces derniers temps vous avez fait du cash power ou vous avez acheté à l'heure du courant ou du kilowatt, mais tout compte fait, il y a des citoyens qui en ont acheté, mais il y a un dysfonctionnement ces derniers temps que les uns et les autres ont commencé par constater, c'est qu'il y a certains qui achètent à peut-être alors 1000 francs et se retrouvent avec 0,5 kilowatts, et d'autres c'est 1800, mais on se retrouve toujours avec 2,5 kilowatts, mais on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Allons-nous dire.
Ben écoutez Pascal, je pense que c'est un cafouillage total parce que les gens ne comprennent rien du tout, pas qu'ils comprennent un peu, c'est-à-dire que tout est cafouillage dans leur tête, ils ne comprennent pas grand-chose malgré les explications, malgré tout ce que j'ai vu comme visuel, comme communiqué circuler de la part de la société, les gens n'arrivent pas à suivre véritablement parce qu'en fait en amont il y a pas un travail qui a été fait. C'est-à-dire que la société n'a pas respecté la clientèle. On ne se lève pas un beau matin et les populations vont constater qu'il y a des prélèvements qui se font sur leur chargement. Ce n'est pas possible.
Et l'augmentation du tarif a été annoncée quand même.
Ça, ce n'est pas une question d'augmentation de tarif. C'est une question... Parce qu'au-delà du tarif, il y a une redevance mensuelle. Une redevance mensuelle qui est soustraite donc de votre recharge. Parce qu'en fait, avant, la société échelonnait cette redevance-là, c'est-à-dire que le client payait de façon échelonnée. Sauf que l'explication qu'il donne, c'est que, en fait, si vous chargez 2000 ou vous chargez 5000, la société vous soustrait directement. Je pense que ça doit tourner autour de 2320, 1800 et quelques pour certains et tout. On vous soustrait automatiquement. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de l'argent à la société. La société a besoin de l'argent. C'est une société, si on peut le dire ainsi, sans vouloir se tromper, c'est une société en faillite. C'est une société en faillite. Parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin de l'argent pour entretenir les infrastructures de transport de l'énergie électrique. Ils ont besoin de l'argent pour pouvoir régler les dettes du Togo. Parce qu'en fait, nous avons un déficit. Et les pays comme le Nigeria nous fournissent de l'énergie. On a besoin de payer pour avoir de l'énergie. Parce qu'en fait, quand vous avez un fournisseur qui vous fournit régulièrement de l'énergie et vous ne payez pas à temps vos dettes, et que ces dettes-là s'accumulent, à un moment donné, le fournisseur va vous couper le courant. Et ça va se constater. Et donc, moi, je pense, et ça reste toujours mon avis, la société n'a pas respecté la clientèle. La société n'a pas respecté les Togolais. Et quand il y a des situations comme ça, le bon sens voudrait qu'on puisse expliquer davantage aux Togolais ce qui va changer véritablement. Parce que là, ils ont annoncé qu'il y a une augmentation de 12,5%. Les Togolais attendaient à ce qu'il y ait véritablement ça. Mais à côté de ça, on constate qu'il y a autre chose qui est cachée derrière. Voilà. Et là, ça fait un poids de plus pour les Togolais. Et vous avez déjà vu les répercussions de cette augmentation qui ressurgit dans un certain nombre de secteurs d'activité.
Justement, notamment, il y a le syndicat des moulins également qui a augmenté les prix.
Désormais, quand vous voulez, par exemple,
moudre le maïs.
Bien sûr, vous devez débourser plus d'argent et autres services que les populations ont l'habitude de demander et qui nécessitent l'utilisation de l'énergie. Et donc, je pense que l'approche qui a été utilisée par la société, c'est à revoir.
D'accord.
Je pense qu'ils ont commencé par corriger cela avec l'émission qu'ils ont, les émissions, les sorties médiatiques qu'ils ont déjà entamées, mais c'est insuffisant.
D'accord.
Il faudrait véritablement que dorénavant, la société prenne en compte les droits des consommateurs.
D'accord. Et Gabin, est-ce que vous avez l'impression que la société n'a pas considéré sa clientèle?
Ouais, c'est de l'irrespect total. Vous savez, quand vous avez quand même des usagers de votre service, il faut les respecter au maximum et leur donner les informations à temps. Et vous ne pouvez pas donner une information et puis par après et faire autre chose. Là, c'est de l'irrespect total. On ne peut pas nous dire. Déjà, on s'est réveillé avec une augmentation de 12,5%. D'ailleurs, ceux qui ont le compteur mécanique ont constaté cette augmentation-là sur leur facture depuis belle lurette. Beaucoup de personnes criaient que bon, on ne comprend absolument rien. C'est vrai que à un moment donné, il y a eu tellement de délestage, mais les factures venaient toujours avec une hausse. Donc, c'est après cela qu'on nous a dit que non, la société a augmenté les frais de paiement de facture à 12,5%. Bon, on a essayé de ruminer un tant soit peu. Et puis, par après, moi, je me suis réveillé lundi avec beaucoup de captures. Hein. J'ai consulté ma galerie et puis il y a tellement de captures qui m'ont envoyé ces messages-là. Je suis rentré dans mon WhatsApp et puis c'est tellement de messages. Les gens demandaient des explications. Je me suis dit, quelqu'un a acheté 1000 francs, il a reçu 0,1 kWh. Quelqu'un a acheté 2000, il a reçu 3,4 kWh. Plein de trucs comme ça. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qui ne va pas? La réponse que j'ai tout de suite donnée, bon, je me suis dit, peut-être il y a une panne au niveau de la société, peut-être une panne technique, ça va se résoudre. Mais après, ça a continué. Du coup, moi-même, j'ai essayé de recharger mon cash power à voir. J'ai rechargé à 5000 francs, j'ai reçu 24,9 kWh. Je me suis dit, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est là que j'ai appelé un ami à la société. Il a été très évasif sur la question. Et pour finir, lui-même, il a dit qu'il ne comprend absolument rien. Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Alors là, je me suis dit, ben, on ne peut pas se comporter comme ça dans un pays. C'est après deux jours que l'on me dit que non, bon voilà, et dès le premier rechargement, la société prélève une certaine somme, ce qui fait que bon, ce que tu devais recevoir, tu ne peux pas recevoir. Et c'est par rapport à la consommation mensuelle. Donc la société n'est pas sûre que après cette recharge-là, tu puisses encore recharger dans le mois. Donc eux, ils prélèvent déjà dès le premier rechargement, ce qui pose problème. Ce qui pose problème parce que une personne, moi, la nuit profonde, je peux mon cash power peut finir. Et puis, si je dispose peut-être 1000 francs sur mon compte Timoney ou bien Flouze, je vais vouloir recharger, on va me donner 0,1 kWh. Ben, je vais utiliser ça. C'est pour faire quoi? Pour charger portable? C'est du manque de respect total. Et ce n'est pas que la société, c'est toutes nos sociétés ou bien nos services publics et parapublics, ils se comportent comme ça. Ils ne donnent pas de l'information. Tu dois crier à chaque moment avant que, bon, ils ne sortent une bribe d'informations pour vous satisfaire. Encore que ce n'est pas toujours la vraie information. Donc, à un moment donné, il faut se dire que la situation qu'on traverse aujourd'hui, c'est très, très, très difficile pour D'accord. les Togolais. Déjà que nos ressources ou bien nos revenus stagnent ou même régressent parce que ceux qui font du business, ils le savent. Hein. Aujourd'hui au pays, si tu faisais peut-être 300 000 de bénéfices par mois, aujourd'hui, c'est à peine que tu arrives à faire 100 000 de bénéfices par mois. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on essaie D'accord. d'alléger la situation pour la population D'accord. et qu'on donne les vraies informations, surtout en amont aux populations pour qu'on puisse se préparer à temps.
D'accord. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une situation telle que la situation se présente aujourd'hui hein, au Togolais, est-ce que ce n'est pas une situation très difficile à supporter pour le Togolais, surtout que le panier de la ménagère est déjà vide.
C'est lourd pour tout le monde. C'est lourd pour tout le monde. Je vous disais tout à l'heure que mes soeurs-là qui vont même passer des communiqués ici vont payer beaucoup plus cher à l'avenir. Il faut qu'on s'attende à ça. Ceux-là qui vont régulièrement dans les supermarchés vont payer beaucoup plus cher. Peut-être le lait que vous payez peut-être à 900, peut-être à l'avenir, vous allez le payer à 1200 ou à 1300. Parce que le coût de l'électricité, ça va grandissant. C'est une situation un peu difficile. Mais est-ce que peut-être dans l'immédiat, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on peut avoir une solution de la part de nos gouvernants? Le problème, tout le monde l'a dit ici, moi je ne vais pas revenir sur ça, c'est une question de moyens. On n'a pas d'argent, c'est tout. La société se cherche, elle n'a pas d'argent. Mais on se demande comment en est-on arrivé là? C'est là où se pose fondamentalement le problème. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien pu se passer, quand il y a les difficultés surgissaient, est-ce qu'on y réfléchissait fondamentalement? Moi, je reviens toujours à ce que j'ai toujours dit, il faut que nous ayons une politique énergétique solide. Les Africains ont raté, c'est 50 ans après, on parle de l'Union africaine, on parle de la CEDEAO qui a déjà 50 ans, on n'arrive toujours pas à avoir une politique énergétique solide, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais que les gens le sachent, moi, j'aime dire ceci, ne sois pas naïf, à l'avenir, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est ça un peu dans notre pays là. La société ne sait pas qu'en réalité, nous sommes ses clients et que nous avons des droits. Je pense que ceux-là, tous ceux-là qui travaillent à la société, doivent faire ce qu'on appelle le droit des contrats à l'université. C'est-à-dire le droit des contrats, les clauses qui nous lient, les responsabilités de la société vis-à-vis de ses clients et les responsabilités du client, les droits du client vis-à-vis de la société. Je pense qu'on ne sait pas ça, on n'arrive pas, on ne nous considère pas comme des clients, on nous considère comme ou des gens qui on accorde des faveurs. C'est comme ça qu'on fait le problème. Sinon, si on nous considérait véritablement comme des clients, on aurait communiqué, on mettrait un accent particulier sur la communication et on ne serait pas dans cette situation. Vous imaginez que chaque fois nous payons et du jour au lendemain, vous faites du cash power et on soustrait une somme importante de ce que vous avez tapé. C'est un peu compliqué. C'est comme on ne nous considère pas comme des clients. Ceux-là qui travaillent à la société doivent faire ce qu'on appelle le droit des contrats.
D'accord. Jamais pour les finalement la situation, est-ce que ça ne dénote pas d'une crise déjà dans la société ou dans la compagnie alors énergétique électrique alors chez nous?
C'est vrai qu'il y a un problème de mauvaise gestion au niveau de la société. C'est vrai aussi qu'il y a une mauvaise communication. Le service de communication de la CT sollicite par moment des médias, des radios, la presse écrite et tout ça pour communiquer, mais cette communication n'atteint pas véritablement le cible. Et ça fait que de plus en plus, les consommateurs sont très peu informés. Et je pense aussi ici, au-delà de la CT, il faut voir toutes les associations de consommateurs qui existe aussi dans le pays. C'est le moment de défendre les consommateurs. C'est bien.
Mais si en amont, ces organisations n'ont pas été associées à cette prise de décision, finalement, qu'est-ce que ces organisations feront?
Oui, on n'a pas besoin d'être associé à cette prise de décision.
Vous y pensez?
Elles défendent les consommateurs. Quand nos droits sont lésés, c'est vrai qu'elles n'ont pas toujours les moyens. Hein. Il faut aussi venir dire que l'État ne donne pas beaucoup de moyens à ces associations-là. Mais il faut que c'est sur ce sujet qu'on les attend, qu'elles aillent à l'information et qu'elles viennent informer ce leur travail aussi. Mais après, je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus une question d'investissement. Il faut beaucoup investir pour doter nos pays des infrastructures capables de fournir de l'énergie, d'utiliser toutes les sources d'énergie possibles. Le Togo a fait l'option du solaire. Il y a quelques barrages qui peuvent fonctionner. Il y a l'éolien aussi, le nucléaire et tout ça. Donc, essayer de voir comment associer ces sources-là et avoir un mixeur énergétique qui permette de couvrir tout le pays et aussi de pouvoir avoir l'énergie de façon continue, pas avec des interruptions, des délestages. Aujourd'hui, on se rappelle ce triste moment de délestage et on n'a plus envie de vivre ça. Je le disais aussi la dernière fois ici, certains, hein, particulièrement ceux qui sont dans le commerce, le business, l'entrepreneuriat, les usines et tout ça, seraient même prêts à payer un peu plus si le courant pouvait être vraiment disponible en permanence. Parce que quand vous n'avez pas l'électricité, vous êtes totalement bloqué si vous êtes une entreprise. Quand vous n'en avez pas à la maison, vous êtes très mal à l'aise. Vous rentrez du boulot fatigué. Vous avez envie de vous détendre. Vous êtes dans le noir. Il n'y a rien de confort. Il n'y a rien qui puisse vous revigorer. Et donc, c'est vraiment embêtant. Donc, maintenant que le kilowatt est augmenté et que le gouvernement trouve les moyens pour investir beaucoup plus dans les infrastructures et nous assurer, ceux qui ont déjà le courant, que ce soit en permanence. Et nous, au moins, on a le courant. Il y en a dans certaines parties du pays qui n'ont pas le courant, même si des efforts sont faits aujourd'hui dans les milieux ruraux. Avec les centrales solaires, il faut investir encore beaucoup plus dans ces centrales-là et plus d'autres formes d'énergie pour que tout le Togolais utilise l'énergie. Sans énergie, il n'y a rien en réalité. Aujourd'hui, c'est ça.
C'est la base de tout.
C'est ça, c'est la base de tout. C'est vrai qu'on parle du carburant. C'est une autre forme d'énergie aussi, mais l'électricité, c'est beaucoup plus, c'est capital. Vous voyez, aujourd'hui, on parle du digital, du numérique qui est incontournable, mais vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas le numérique. Tout tourne autour de cela. Et donc, je crois que nos États africains en général doivent faire cet effort-là. Et le Togo, qui est sur une bonne voie avec le plan national d'électrification, accélère dans la recherche des moyens. C'est vrai qu'il y a des projets aussi sous régionaux. On en a parlé, le projet avec le Tchad, le Burkina, le Niger, le Mali, pour avoir une centrale solaire capable d'alimenter ces 5 pays. Mais d'accord, tout ça, ça va prendre des années. Il faut trouver des moyens. Mais sur le plan local, je crois que le Togo doit s'activer parce que...
D'accord. Merci. Merci beaucoup, Germain. D'abord, on va aborder un autre sujet. C'est ce sujet alors du rappeur togolais Amron. Et Amron qui a été arrêté dans la nuit alors du 26 mai dernier. Et vous êtes au courant, bien sûr, alors de cette information. Et oui, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des voix qui s'élèvent et qui demandent la libération alors de l'artiste. Mais quand on considère, ou du moins c'est quand on voit, on suit cette actualité, est-ce qu'on pourra dire que oui, on sait aussi que Amron s'est exprimé ces derniers temps sur la vie sociopolitique alors du pays, mais de quelle manière aussi également la question se pose, mais est-ce qu'on pourra dire que c'est la liberté d'expression qui prend un coup?
Bon, on peut le dire ainsi, d'autres peuvent le dire et d'autres ne peuvent pas le dire, mais jusque-là, on ne connaît pas les chefs d'accusation qui pèsent sur lui, donc du coup, moi, je ne veux pas me prononcer par rapport aux motifs qui ont conduit à son arrestation, mais j'aimerais quand même parler de la forme, dans une république, peu importe ce que la personne a fait, peut-être, si la personne est... représente un danger, un véritable danger pour le pays. Alors là, on peut l'appréhender à une certaine heure avec les personnes qu'il faut. Mais là, il s'agit de quelqu'un qui a parlé. C'est vrai, il s'est exprimé sur un certain nombre de sujets, parlant de la situation sociopolitique du pays et même de la vie chère et autres. Là, il a décrypté aussi, dernièrement, avant qu'il ne soit arrêté, il a décrypté la dernière sortie de Madame Nakade et autres. Du coup, bon, moi, je me dis, est-ce que ça suffit pour venir appréhender quelqu'un de la manière dont il l'a fait? Parce qu'on a suivi les témoignages de ses parents qui ont dit que pratiquement il y a eu 50 militaires ou bien forces de l'ordre qui sont venus l'appréhender.
Il parlait d'une cinquantaine.
D'une cinquantaine devant les enfants avec des véhicules blindés et autres et à une heure assez tardive de la nuit parce que, vous savez, on ne peut pas faire ce genre de choses devant les enfants d'autant plus que la personne à la maison n'a pas fui. Et étant un État, on a tous les dispositifs de renseignement pour pouvoir l'appréhender s'il veut même sortir du pays. Donc, il faut attendre une heure raisonnable pour venir l'appréhender. Pourquoi attendre jusqu'à 20 heures pour venir appréhender quelqu'un avec 50 forces de l'ordre devant les enfants comme ça et les parents? Moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. Beaucoup de personnes vont dire que non, les parents étaient là quand ils faisaient des lives. Mais c'est un Togolais qui peut s'exprimer. Peut-être le ton ne peut pas plaire à certaines personnes, mais c'est un Togolais qui peut s'exprimer sur l'actualité sociopolitique du pays. Et pour appréhender quelqu'un, il faut quand même un mandat d'arrêt. On dit, les parents disent que non, ils n'ont pas amené de mandat d'arrêt, ils l'ont appréhendé comme ça, ils l'ont pris, et puis c'est lui-même qui s'est rendu, hein, quand, dès que les militaires se sont présentés, il a marché pour les suivre, on l'a mis dans le pick-up. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le procureur ne s'est pas prononcé, on ne sait pas les chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Donc, on garde une personne comme ça, dans un lieu de détention, sans dire ce qu'il a fait à la population, moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. Si on veut véritablement faire quelque chose, bon, faisons les choses bien. Nous sommes sur le terrain du droit et la procédure judiciaire nécessite que les choses se fassent dans les normes. Une fois que la procédure est viciée, je pense que le reste, là, c'est nul et de nul effet. D'accord. Il va falloir le relaxer.
D'accord. Oui, mais Firmin, quelle est votre analyse par rapport à cette actualité?
Moi, je voudrais dire trois petites choses. La première chose, c'est que je me pose la question, qui a porté plainte contre lui? C'est la question que je me pose. Si c'est le président de la République, ou, excusez-moi, si c'est le président du Conseil, parce qu'il a nommément cité dans ses lives, ou c'est le ministère public qui, dans l'intérêt de la loi, s'est auto-saisi. Ça peut être les deux possibilités. Mais quelle que soit la situation, moi, j'appelle juste à la clémence pour qu'on puisse le libérer. Parce que le garder, moi, et avec tous ses enfants aussi, dans cette situation, moi, je pense que ça va être un peu difficile pour la famille, pour les enfants. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire observer, vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, moi, j'ai suivi 3-4 lives. Je dirais live ou les vidéos, c'était pas un live, des coupures au fait. Mais est-ce que vous avez suivi un peu le comportement? Soit Amron, il a un problème comportemental, soit il est mal éduqué. C'est deux choses. Soit il a un problème comportemental. Vous voyez comment il traitait le président du conseil, c'est-à-dire Fonia Singbe. Vous voyez, c'est pour moi, il y a une question de morale. Soit il a un problème comportemental, soit enlevé en minant, dit Mle Nuelo. Soit il est mal élevé. Il t'a dit, si publiquement comme ça, vous allez traiter les autorités. Ou même, moi, par exemple, Pascal, on peut avoir des divergences d'opinion, mais je ne peux jamais vous traiter comme ça. Vous imaginez? Si quelqu'un se prononce comme ça, moi, je me dis, soit il a un problème psychologique, soit il est mal éduqué. C'est ça, quand vous suivez la chose. Et aussi, la troisième chose, c'est quoi? C'est que quand des gens du régime, des gens que le régime a nourris, des gens qui ont servi le régime, et du jour au lendemain, c'est là pour dire que le régime est mauvais. Moi, je dis que ces personnes sont malades. Quand vous mangiez et que tout était ouvert pour vous, vous ne saviez pas que le régime, au fond, Nassim était mauvais. Vous, quand vous mangiez, à moi, les gens ne le connaissent pas. Moi, je l'ai connu en 2011. Il a grandi à la gendarmerie. Je ne sais pas s'il a grandi, mais on l'a rencontré. C'est à la gendarmerie qu'il a grandi. Il venait de sortir ses albums, ses histoires de musique. Pardon? Son papa est colonel. On nous avait convoqué, c'était une nuit, c'était un dîner de presse ou des échanges avec l'artiste. Vous imaginez? Et aussi, regardez, vous voyez un peu les vidéos, mais c'est quelqu'un qui ne souffre pas. Hein? Vous voyez ses enfants ne sont pas seuls. Mais il vit de quel moyen? Qui le nourrit? Peut-être, pardon?
C'est un artiste.
C'est un artiste, bien sûr. Il vend combien d'albums? Je veux juste dire quoi? Juste dire qu'en réalité, c'est quelqu'un que le régime a nourri, c'est quelqu'un que le régime a alimenté.
Mais on ne peut pas affirmer ça comme ça.
Non, attendez, non, son papa est colonel, attendez. Son père colonel, il a grandi à la gendarmerie.
Le colonel, il a travaillé pour le pays.
Oui, il a travaillé pour le régime. Je dis qu'il a travaillé pour le régime. Si vous dites que le régime est mauvais, et que vous savez qu'on vous nourrit avec les frais du régime, mais dites en même temps que moi, je ne veux pas du régime, je sors de cette histoire. On vous donne de l'argent, vous reversez à la personne. C'est ça, en fait. Mais c'est des gens, après, comme les agglomés et autres, qui se disent aujourd'hui, ou qui disent le régime est mauvais, alors que c'est le régime qui a fait de vous ce que vous faites. Vous êtes
Oui.
Mais c'est la même chose, en fait. Et puis, les gens disent que le régime est mauvais. Moi, sur ce point, moi, je dis, ces gens-là, mais c'est des gens qui ont des problèmes. Et la dernière chose, c'est par rapport aux différentes réactions de l'opposition. Moi, je croyais qu'en réalité, quand vous lisez un peu les communiqués, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai mal lu, quand vous lisez les communiqués, moi, je pense que en réalité, ils allaient dénoncer la manière dont le jeune a dénoncé. Vous imaginez un chef d'État ou un président du Conseil, on le l'a conservé avec des mots sales comme ça. Vous, à votre niveau, dans votre posture, vous n'avez pas pu dénoncer ces attitudes. Vous savez, vous rappelez comment le jour où on a giflé Emmanuel Macron, Mais toute la classe politique française a condamné cela.
On l'a rejeté encore.
Oui, oui, avec sa femme. Mais toute la classe politique, parce qu'en réalité, ça porte un coup à la morale. Ça porte. Oui, pardon, une seconde.
Allez-y.
Oui, ça porte un coup à la morale. Ça porte un coup à la morale. Normalement, l'opposition, qui aspire venir au pouvoir demain, devrait en réalité, au nom de la morale, condamner la forme. Amron a tout le droit, ou tous les droits, de dénoncer le régime. D'ailleurs, on le fait ici. Des gens qui vont appeler vont le faire ici. Il dit quoi de nouveau? Pour conclure, mais quand l'opposition aujourd'hui s'agrippe à ces vidéos, à ces sorties d'Amron pour critiquer le régime, moi, ils me font honte. Moi, j'aurais honte à leur place.
D'accord.
Vous savez pourquoi? Vous savez, si après vous êtes là, le papa a fait 38 ans. Vous étiez là. Fonia Singh venait d'avoir 39 ans. Il a 7 de pouvoir. Et vous êtes là. Et les blémidenti, vidé, caca. Il fait 20 ans. Et vous n'avez pu rien faire. Et que c'est ce petit-là qui a fait des sorties. Et vous avez sorti des communiqués. On peut dénoncer la manière dont on l'a arrêté. Mais c'est ce petit-là que vous avez fait, sur qui vous allez encore vous agripper pour critiquer le régime. Je me dis que l'opposition togolaise, elle a des problèmes.
Merci, Fimé. Oui, Germain, c'est vrai que vous êtes revenu dans votre journal aujourd'hui sur le sujet. Vous écrivez « Affaire Amron, l'analyse juridique de maître Gilles Benoît à Franck Bédi » et vous écrivez « Jusqu'où peuvent aller les influenceurs ?»
Oui, alors ça, le débat, quand on le suit, on a comme l'impression que la liberté d'expression est limitée. Personne ne dit que la liberté d'expression est encadrée. Même nous-mêmes, en tant que journalistes, nous avons la liberté d'expression. Mais il y a un code de la presse qui limite énormément des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Alors si je dis, mais il faut qu'on lapide Pascal, il faut qu'on attaque les Moba, les Kotokoli, les Kabiev.
Mais là, je porte une plainte.
Je vais en prison directement. Même en tant que journaliste, le code ne m'évite pas la prison. Je vais en prison directement. Mais les gens ne savent pas qu'il y a ces lois-là. Et donc, toutes ces libertés sont encadrées. C'est ce que maître Gilles Benoît à Franck Bédi a essayé de rappeler dans une tribune qu'il a publiée il y a 2 jours, où il a parcouru presque tous les droits en France, au Canada, un peu partout. C'est des infractions qui existent dans tous les codes. C'est pas inventé par le Togo. Et donc, quand vous parlez, vous êtes libre de dénoncer. Mais il ne faut pas offenser les gens. Vous êtes libre de critiquer, mais il ne faut pas. Donc, nous, ici, on critique des gens, mais on ne les insulte pas. Mais quand vous insultez, vous tombez dans autre chose. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a des individus qui sont même plus influents que les médias aujourd'hui et qui s'attaquent pas seulement aux autorités, hein, même à des personnes privées. Et ils disent tout ce qu'ils veulent sur les gens. Même les choses les plus intimes qui touchent à la dignité humaine, ce qu'on ne doit pas dire sur un homme, ils le disent, croyant qu'ils sont sur une île où on peut tout faire, il n'y a pas de... Alors qu'aujourd'hui, il y a même plusieurs codes sur le numérique. Toutes les lois sont en train d'évoluer parce qu'il y a trop d'infractions sur le numérique. Alors quand un artiste comme Amron tombe un peu dans ce piège, moi je crois que ce qu'on devrait faire, et c'est ce que certains artistes ont eu à le faire quand tu vas... Certains qui essaient de demander pardon. Parce que quand vous l'écoutez, Firma le disait, parfois vous demandez, mais est-ce qu'il va bien? Parce que même ceux qui le défendent sont incapables de faire ça. Ceux qui le défendent sont incapables de faire la même chose.
Exactement.
Oui, donc vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc aujourd'hui, peut-être les gens ne connaissaient pas cette loi, et c'est même ça l'objet de mon article, c'est de dire, il faut vraiment qu'on forme tous ces influenceurs-là. Parce que c'est des gens qui diffusent de l'information, ils ont un impact sur l'opinion, et il faut qu'ils sachent que tout ça est encadré, et que aujourd'hui on a InHack qui doit s'occuper un peu des réseaux sociaux, on a Lancy qui est là, c'est plein de délits et d'infractions sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Il faut que les gens sachent qu'ils sont libres de parler, mais dans le cadre de la loi, et ce n'est pas aussi illimité. Donc, c'est vrai qu'il y a l'ignorance de la loi, et on a un sentiment de puissance aussi quand on est chez soi avec un téléphone, une caméra devant. On croit que... Et puis, il y a de faux supporters qui vous encouragent dans le délire, dans les dérives. Ils vous applaudissent, ils rentrent dans vos inbox, ils font les pouces et ils vous induisent en erreur. Et après un moment, quand ça tombe sur vous, eh ben, ils font semblant. Et même j'ai vu certains qui disaient, mais laissez l'œil se manger entre eux là-bas. Et même j'ai vu des vidéos d'Amron où il dit, lui-même, il est de la minorité, son père est de la minorité. Lui... Après, je me demandais, est-ce qu'il est normal? Mais... Bon, bref, d'accord. Espérons vraiment qu'on mette ça sous le sceau de l'ignorance, même si nul n'est censé ignorer la loi. Il faut dire qu'il y a beaucoup de lois qui ne sont pas connues.
D'accord.
Il faut que les députés en fassent la promotion. Merci, il faut que la société civile en fasse la promotion.
Merci Jamais. Oui, Samir, quelques minutes. Et qu'est-ce que vous pensez alors même d'ailleurs de cette actualité? Votre analyse?
Ben, écoutez, Pascal, fort heureusement pour nous, nous sommes dans un pays où les libertés individuelles et collectives sont garanties par les textes et les lois de la République. Le premier instrument qui garantit ces libertés-là, c'est la Constitution. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Nous avons le droit, lorsque nous constatons que quelque chose ne va pas, lorsque nous constatons que quelque chose ne marche pas, nous avons le droit de le dire, mais dans le respect de la loi, dans le respect des textes qui régissent l'exercice donc de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation, tout cela. Donc, je pense que le principe, il est clair. Quand quelqu'un dérive, quand quelqu'un viole les dispositions qui régissent l'exercice de cette liberté, on doit lui dire que la personne a commis une erreur, que la personne a violé une disposition de la loi. Même si on aime la personne, et c'est parce qu'on aime la personne que nous devons avoir le courage de lui dire qu'elle a violé donc cette loi-là. Et normalement, elle doit véritablement subir la rigueur de la loi. Maintenant, vous savez que depuis un certain moment, le Togo fait objet d'examen devant les organes de traité. Donc, nous avons signé un certain nombre de traités, de conventions, mais également devant le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l'examen périodique universel. Et l'une des recommandations qui revient, c'est que les interpellations se font dans la violation des règles de procédure pénale. C'est-à-dire qu'en ce 21e siècle, on ne peut pas admettre, quel que soit ce qu'on reproche à un citoyen, qu'on puisse mobiliser autant de militaires, autant de gendarmes, autant de policiers, pour qu'on aille chercher un citoyen qu'on reproche d'avoir violé une loi de la République. On le prend comme il est un voyou, qu'il est un bandit, qu'il est un criminel. Amron, quel que soit ce qu'on peut le reprocher, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un bandit de grand chemin. C'est un citoyen qui s'est exprimé sur les faits qui concerne la République, mais qui s'est mal pris dans la démarche empruntée. Et donc, cette manière donc d'interpeller les citoyens doivent cesser véritablement. Parce qu'en fait, nous sommes en train de construire un état de droit, nous sommes en train de consolider la démocratie, et lorsque vous vous inscrivez dans cela, et c'est la vision des autorités togolaises, on ne doit pas admettre que les citoyens soient interpellés de cette manière-là. La deuxième des choses, ce qu'on doit faire en sorte que, lorsqu'une personne est interpellée, qu'on puisse le notifier ce qu'on le reproche véritablement. Parce que toutes les réactions que vous voyez, ceux qui soutiennent, ceux qui critiquent, ils sautent sur l'opportunisme. Il n'y a pas des éléments de droit, il n'y a pas des éléments qui leur permettent véritablement de fonder leur réaction. Et le dernier élément, c'est que, et c'est ça, moi je suis quelqu'un qui intervient sur les questions des droits de l'enfant. Vous savez, quand vous ratez l'éducation de votre enfant, tout ce qu'il devient dans la société, parce qu'aujourd'hui vous avez des violeurs, vous avez des voleurs, de grands voleurs, vous avez des brigands, vous avez des personnes de mauvaise moralité et tout cela. Et donc quand vous avez un enfant comme Amron qui ne sait pas respecter un aîné, quelque chose qu'on peut reprocher à un aîné, la première des choses qu'on nous enseigne quand on est enfant, c'est qu'on doit respecter celui qui nous dépasse. Et de surcroît, celui qui incarne l'autorité de l'État, on doit quand même se prononcer à son égard d'une manière respectueuse. C'est pourquoi on dit qu'en fait, lorsqu'on fait partie d'une société, on est en droit de dire ce qu'on n'aime pas, on est en droit de dire ce sur quoi on n'est pas d'accord, mais on doit savoir choisir nos mots. Donc Amron, c'est le résultat d'une mauvaise éducation, parce qu'en fait,
les parents ont raté l'éducation de Amron. Parce que ce n'est pas une question.
C'est pas ça.
Non, mais il faut dire, il y en a plein dans la société. Il y a des personnes que vous rencontrez en chemin, mais qui tiennent des propos irrespectueux, à la limite, mais qui sont des enfants irrespectueux véritablement. Mais, et donc on doit pouvoir je vais finir par là. On doit pouvoir leur dire qu'en fait ils ont raté l'éducation de leur enfant. Et là je vois des vidéos qui traînent par ici par là. On associe même des enfants. Mais c'est quand même ahurissant. Comment on peut exposer des enfants de moins de 18 ans? La protection de l'enfant, c'est quelque chose de fondamental. On doit pouvoir véritablement prendre en compte tous ces aspects-là.
D'accord, merci. Et merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup. Je pense quand même que notre temps est tellement avancé. Donc, c'est vrai, j'aurais voulu même d'ailleurs qu'on se prononce sur des sujets tels que la réaction des évêques du Togo. Et il y a le journal Le Canard Indépendant qui titre bien sûr sur le sujet: situation sociopolitique du Togo appelle des évêques à un dialogue entre acteurs politiques. Ce cri sera-t-il entendu cette fois-ci? C'est une question que le journal se pose. Et également le journal Le Tonnerre qui écrit: situation sociopolitique, le message des évêques du Togo. D'autres journaux sont revenus sur le sujet, mais je pense que déjà quand on fera le tour de table, chacun se prononcera sur ce sujet et également sur le report des municipales, on se prononcera sur le sujet. Et maintenant, nous allons donner la parole à nos auditeurs puisqu'ils s'impatientent à rentrer en ligne, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
23.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 63 75 et également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est Ali.
Ah, Ali.
Oui, gloire à Dieu, le Togo a encore une atmosphère vraiment ensoleillée puis sombrée. Oui, je parle de l'atmosphère du Togo. Je dis merci pour le canal, mais retenez ceci. La vie de chacun porte, mais ceux qui veulent mettre dans la tête des Togolais que Amron est faux, il n'est pas faux. Retenez que Martin Luther King n'était pas de la minorité, n'était pas de ceux qui offensaient. Il était de la bourgeoisie, mais il a défendu les gens. Ceux qui disent qu'il est nourri, quoi, lui. Mais au nom de quoi une seule personne, un clan, fait du mal à toute une nation, nous réclame le respect. Quel type de respect? Ceux qui nous font mal, nous respectent, nous. Quand le sentiment que tu as, que tu exprimes. On ne demande pas à quelqu'un qui a du mal de rire. Désolé. Celui qui parle de droit des enfants, oui, il faut dire vérité aux enfants que le Togo ne va pas bien. Et surtout leur inculquer. Ne nous dites pas que la loi fait protéger que l'enfant. L'enfant a faim, il va s'exprimer. Ne nous dites pas que d'épargner les enfants de quoi que ce soit comme politique.
D'accord.
Le Togo, c'est tout le monde qui vit dedans.
D'accord, merci Ali, puisqu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
C'est monsieur?
Monsieur Mouana.
Monsieur Mouana, il y a un peu d'écho à votre niveau, je ne sais pas.
Salut, Pascal.
Oui, salut, allez-y.
Monsieur Pascal, je voudrais dire que à monsieur Firmin. Monsieur Firmin, moi, je l'ai connu en 2010.
Moi, j'étais venu à Cazou, j'ai pouvait faire le mal. Décidement, monsieur Mouana.
Oui.
Décidement, nous avons du mal à vous écouter. Si vous pouvez rappeler, ce serait bien, puisqu'on a du mal vraiment à vous écouter. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, comment vous allez?
Je vais très bien, merci, Kouta.
Oui, votre nom c'est?
Oui, c'est ça, Joe de Kouta.
Ah, Joe de Kouta, allez-y.
Oui, s'il vous plaît, quand on parle d'un bon comportement
est-ce que c'est juste envers les autorités ou bien envers tout le monde, celui qui est bien éduqué là? Est-ce qu'il faut bien se comporter envers les autorités?
Allô, Joe? Allô, Joe? Allô? Mais décidément, il y a sa voix qui est totalement partie. Allô?
Ah, papa, bonjour.
Oui, Basile, bonjour, comment vous allez?
Oui, tout bonnement.
D'accord.
Comme le PC ne veut pas me faire bien librement, je suis toujours là-dedans comme ça. Et voilà, je veux saluer le studio, tout le monde d'abord, là-bas. Et je ne vais pas perdre le temps aux autres, mais comme vous avez dit, il y a beaucoup de personnes à ligne. Firmé, Germain, moi je pense que si disait plutôt à M. Faure et son Vinagne Assimbé de faire vivre les Togolais comme le Burkina, le président Burkinabé le fait, le président Béninois le fait, mais surtout le président le font, en faisant quoi? Ils vont nous dire que qu'est-ce que cela font? On n'achète pas le ciment là-bas à 80 000 francs. On n'achète pas l'essence là-bas au coût que nous on l'achète. On n'achète pas le gaz là-bas au coût que nous on l'achète ici. On ne fait pas tout ça là au coût que nous on l'achète. Mais c'est lui qui paie les fonctionnaires avec, ça veut dire, un salaire insignifiant. Si eux, les deux là, ils peuvent dire à M. Fonia, faire vivre les gens, on va voir. Ils peuvent avoir encore une raison de vous critiquer. Moi, je serais vraiment d'avis avec eux, quoi. Qu'ils viennent ici, quand les gens parlent, ils font des contentions.
Basile, vous l'avez dit, vous avez encore utilisé ce mot et il faudrait quand même qu'il y ait un peu de courtoisie dans les propos. Merci de nous avoir appelés. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, chez vous.
Ça va aussi. Votre nom, c'est
Tonton Vie de Clicamé.
Ah, Tonton Vie de Clicamé. Allez-y, Tonton Vie.
Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le direct aujourd'hui. D'abord, je tiens à vous remercier parce que c'est une émission à grande écoute. Et quand vous jugez la population, tout le monde est énervé. Tout le monde a une tension très, 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 très énervée. Rien seulement pour la popote, rien pour le salaire, rien pour l'augmentation de la CET. Hier, je vous ai appelé pour vous dire qu'il y a deux formes de traitement des retraités au Togo. Il y a une forme dont ils finissent leur carrière, on dit payer leur 40% de leur pension. Il y a une autre forme, on dit payer leur 80% de leur pension. Quel est ce rythme sur lequel on s'est basé pour diviser les Togolais retraités dans ce pays? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, honnêtement, Pascal, lorsque les confrères parlent, excusez-moi, essayez de leur dire de mettre un peu de l'eau dans leur verre. Personne ne peut juger un parent s'il a bien éduqué son enfant ou il a mal éduqué. Ce n'est pas une bonne chose de lui dire à une grande écoute de votre écoute. Franchement,
merci,
c'est
merci
ma contribution.
Beaucoup. Merci.
Et oui. Franchement, lorsqu'ils font des erreurs, essayez également de leur dire que ça ne se dit pas.
D'accord, merci beaucoup, Tonton Vie, pour ce recadrage. Merci. Allô?
Oui.
Bonjour.
Allô?
Oui, Pelé, bonjour.
Bonjour, je salue le plateau.
Oui, j'espère que vous allez bien.
Bon, pour... je pense que je vais parler d'abord du second tour, le report des élections locales, comme on dit. Une seule journée seulement, de reporter une seule journée seulement. Parce qu'il faut préparer le dossier, il ne faut pas prendre une journée pour préparer le dossier. Qu'est-ce qui a fait qu'on fait le report? D'après ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils ont venu et ils ont augmenté les conseillers et bon. Pour revoir tout ce dossier-là, c'est une journée. Voilà la mauvaise part du régime républicain. Donc, je voulais parler de l'arrestation de l'artiste. Donc, je pense que l'institute, ce n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose. Mais, entre un borgne et un aveugle, la seule arme pour l'aveugle de combattre le borgne, c'est l'institute.
il n'a que ça. Mais là, tout ce qui se passe aujourd'hui, et je voudrais demander tout le monde sur le plateau, entre celui qui insulte et celui qui donne l'argent de la République, qui a tort, il faut arrêter. Entre celui qui insulte et celui qui donne le texte, vous voyez tout ça là? Qu'est-ce qui amène tout ça là? C'est ça qui amène à tout le monde ici de demander au président qu'on l'assume. Qui a tout le pouvoir jusqu'à aller jusqu'à la force de, comment dire, le Sénat, tout ça là, de convoquer une assise en pénal, de libérer les détenus politiques pour que les détenus rentrent, pour qu'il y ait la paix dans le pays. Est-ce que ça, c'est de l'idée à 14h pour le président qu'on l'assume? Il devait le faire. La seule âme de ces jeunes, tout ça là, mais c'est que c'est la frustration. Il faut le comprendre. Mais je veux surtout aussi dire à M. Firmin que quand il dit que le père de Amrom, que c'est l'armée, que c'est le régime que l'on dit, qu'est-ce qu'il va répondre à des Togolais qui disent que le régime RPP est soutenu par l'armée? Merci.
Merci beaucoup, Pélé. 90 86 35 35 91 36 63 115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, bonjour le plateau.
Oui, votre nom c'est?
Allô, bonjour le plateau.
Oui, votre nom?
Allô?
Je vous écoute, votre nom?
Allô?
Décidement, Michel, il ne nous écoute pas, 90 86 35 35. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
C'est Monsieur Kofi.
Oui, c'est Monsieur Kofi.
D'accord, allez-y.
Moi, simplement, je dirais à nous, auditeurs, que lorsqu'on aura fait deux journalistes sur le plateau, de nous pas appeler. Parce qu'il faut s'y avoir.
Allô, Monsieur Kofi. Allô, Monsieur Kofi.
Oui,
moment, vous appelez pour vous prononcer sur des sujets, débattus. Monsieur Kofi, écoutez-moi. Vous appelez pour vous intéresser surtout au sujet et nous voudrons justement écouter votre avis sur le sujet. N'attaquez pas les gens quand même sur le plateau. Allô?
Oui, mais parce que à chaque fois que vous les avez et quand ils parlent mal, vous les laissez toujours.
Mais décidément, en 94, on va prendre un autre auditeur et c'est le dernier auditeur puisque décidément, Monsieur Kofi ne veut pas nous écouter. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour chef.
Oui, c'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain. Je salue les deux confrères qui sont ici avec vous.
Oui.
Bon, je ne sais pas, pour la question d'Amron, son papa, il est vivant, le colonel. Souvent, les enfants de ces colonels, c'est eux-mêmes qui disent, bon, allez prendre mon enfant pour un temps. Je ne sais pas. C'est la maman qui a fait une sortie. Le papa, moi, je ne l'ai pas attendu. Et c'est comme ça que ça se passe souvent. Mais la manière, la façon dont il a été appréhendé, il ne s'est pas togolais. Et de deux, pour la société. La société a manqué du respect pour les togolais. Parce que ce n'est pas après avoir commis les casses qu'il faut sortir et nous rabattre les oreilles avec ces commentaires-là. Ces commentaires ne nous concernent pas. Il faut expliquer en amont, avant, ce genre d'augmentation. Les Togolais ne sont pas des abrutis. On va comprendre quand ils font des sorties pour nous expliquer avant d'augmenter. Et ils augmentent quand on est en train de crier, ils sortent pour nous rabattre les oreilles avec, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Non, quand même.
D'accord. Merci, Sylvain, pour votre intervention. Sylvain, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Merci aux uns aux autres d'avoir appelé. Il y a également beaucoup de réactions sur notre numéro WhatsApp. Je lis ceci. Et il y a Serge qui nous écrit. Bonjour le plateau. Je ne sais pas ce que la société viendra dire sur une radio. Ils vont nous expliquer comment ils ont détourné les fonds ou bien comment ils gèrent mal dans un pays où il n'y a pas de reddition des comptes. C'est normal
dit qu'il est qu'il y a des ses argumentations et en tout cas un jour seulement et les Togolais seront en joie. Merci et bonne émission. C'est Serge qui nous écrit. Il y a beaucoup d'autres auditeurs également qui nous ont écrit sur notre numéro WhatsApp et mais tout compte fait avec le temps puisque notre train est déjà avancé, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. L'émission alors de ce vendredi. Samir, vous avez écouté les uns et les autres, mais j'aurais voulu quand même qu'on ne revienne plus sur les réactions des auditeurs, mais qu'on parle plutôt de ces deux sujets que nous avons laissés avant de recevoir les auditeurs, c'est-à-dire la question, la réaction des évêques du Togo sur la vie sociopolitique alors du pays et aussi le report des municipales.
Ben écoutez Pascal, sur le report, je pense que depuis un certain nombre d'années, on est habitué à ces petits décalages et cela peut s'expliquer à deux niveaux. D'abord, vous savez que nous avons une commission électorale nationale indépendante qui est permanente. Ça veut dire que même au-delà des périodes électorales, nous avons le bureau qui reste permanent, qui sont payés, qui reçoivent leur indemnité. Donc en fait, ils ont comme mission de s'occuper des préparatifs de la prochaine échéance électorale. Donc en réalité, nous devons connaître le calendrier électoral dès qu'on finit une élection, parce qu'on a 6 ans pour préparer les élections. Donc ça veut dire qu'en fait, la CENI n'a jamais joué son rôle de permanence. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que vous avez le gouvernement qui, je ne sais pas si ils font semblant ou véritablement, c'est qu'ils sont dans une situation d'impréparation. Parce qu'en fait, une élection, on publie le calendrier électoral bien avant. Les acteurs politiques doivent connaître le calendrier électoral. Toutes les phases donc du processus électoral doivent être connues des acteurs politiques. Ce qui n'est pas le cas depuis un certain temps au Togo, où les acteurs politiques sont surpris par le calendrier électoral. Et on ne publie pas le calendrier électoral tout entier. On publie la liste de révision ou de recensement. Après, on publie la convocation donc du corps électoral. Après, c'est le jour du scrutin et tout cela. Je pense que ça ne nous permet pas d'avancer véritablement. Et sur la sortie donc des évêques, je pense que l'Église a toujours joué un rôle important donc dans notre pays, le Togo. J'ai vu énormément de sorties qui critiquent cette sortie, que le clergé doit se limiter aux questions d'Église. Je pense que les gens ne connaissent pas véritablement ce que c'est qu'une religion donc dans une société. Avant qu'ils ne soient des évêques, avant qu'ils ne soient des prêtres, ils sont d'abord des Togolais. Donc, qui parle des Togolais, parle de tout ce qui a un lien avec la gestion donc de la cité. Donc ils ont au-delà.
Et l'Église a une dimension politique aussi.
Absolument, l'Église a une dimension politique. Et donc je pense que leur sortie ne fait que mettre également en avant tout ce que pensent les Togolais. D'accord. Sur la situation sociopolitique. D'accord. Et le gouvernement doit prendre en compte les propositions qui ont été abordées.
Merci beaucoup.
Par la conférence des évêques.
J'aime pour lui 30 secondes.
3 secondes sur la sortie des évêques, déjà c'est dire que c'est leur droit de sortir, hein, mais je pense que par moment, depuis un temps, il manque de neutralité, il doit faire un effort pour être déçu des considérations partisanes. C'est ce qui fait que vous avez vu que cette sortie a soulevé des réactions. Il y en a qui ont applaudi, il y en a qui ont plutôt accusé les évêques. Et on voit cela depuis la conférence nationale, en passant par la CVJR, où là au moins les gens apprécient unanimement, même si certains avaient boycotté la CVJ avant de rattraper dans les recommandations. Mais plus globalement, je crois que les évêques doivent faire l'effort de prendre un peu plus de hauteur. Vous savez, il y a plusieurs confessions religieuses au Togo. Il y en a qui s'expriment, qui n'ont même pas l'audace de s'exprimer de cette manière. Vous allez voir, il y a des musulmans, il y a les assemblées des dieux, les pentecôtistes et tout ça. C'est des gens qui essaient de garder une certaine neutralité par rapport aux positions politiques. Quand vous ne pouvez pas prendre de la hauteur, on vous traite comme si vous étiez un acteur politique. Et je vois que c'est un peu ce qui rend aujourd'hui un peu inaudible la sortie des évêques. Mais si elle veut se prononcer, qu'elle fasse un effort.
Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça rend inaudible?
Mais les gens n'écoutent pas, puisque les gens même ont le courage d'accuser et d'attaquer. Vous avez vu sur les réseaux sociaux les réactions.
On va pas faire le débat.
Mais en temps normal, une autorité religieuse, quand elle s'exprime, les gens se taisent. Vous allez voir même, vous trouverez même des catholiques peut-être qui ont signé ça pour ne pas être d'accord. Donc, quand vous êtes une église, vous dites, il y a des opposants, il y a des partisans du pouvoir dans votre église, et sur les questions politiques, vous prenez de la hauteur. D'accord. Donc, vous n'avez pas cette capacité-là, c'est là où je dis, vous devez...
D'accord, merci beaucoup. Oui, Gabin?
Pour le report des élections, moi, j'ai pas été surpris. Hein. Je l'avais déjà dit sur un média qu'il y aura un report des élections et même la baisse du cautionnement. Donc, moi, je suis pas surpris par cette décision. Maintenant, par rapport à la sortie de la conférence des évêques du Togo, ben, c'est tout à fait normal que ce sont quand même des personnalités morales. Et à un moment donné, il faut s'exprimer sur ce qui se passe, la situation politique du pays. Donc, s'ils sortent, la vérité n'a pas besoin d'avocat. On n'a pas besoin d'être au beau milieu. Hein, quand il y a une vérité à dire, donc ils ont dit ce qu'ils pensent. Notons qu'à un moment donné, ils ont eu à faire des sorties que l'opposition n'a pas du tout apprécié parce qu'ils ont véritablement attaqué l'opposition. Donc il faut le prendre comme ça, vivement que ceux à qui est adressé ce message-là puissent prendre cela en compte et puis changer les donnes. Surtout qu'ils ont dit qu'il faut un dialogue. Actuellement, on sait qu'au Togo, on a besoin d'un véritable dialogue.
D'accord. Fermé, 30 secondes.
Non, 30 secondes. Moi, c'est par rapport au dialogue que demandent les évêques. Moi, je me demande si ce sera possible. Nous ne sommes plus en 1990, nous ne sommes plus en 2017 non plus. Donc, quand on parle de dialogue, c'est une question de rapport de force. Ce pouvoir va se dire, quelle crise avons-nous dans le pays pour pouvoir ouvrir un si grand dialogue où toutes les couches prendront part. Donc, à ce niveau, ça c'est un peu compliqué. Ce qu'on va demander au pouvoir, c'est que les Togolais souffrent. Il y a beaucoup de Togolais qui souffrent. Les gens n'arrivent pas à bien s'assurer 3 repas par jour. Il faut que le pouvoir y pense véritablement pour que le panier de la ménagère ne soit plus trop menacé.
D'accord, nous allons terminer avec la douce voix de Antakol. Nous sommes à la fin.
Oui, bon, je reste un peu perplexe devant toutes ces situations. Je ne peux pas être artiste et passer ici sans prononcer un mot par rapport à Emron, là où il est. Je lui souhaite beaucoup de courage. Et je veux dire aussi que nous sommes des artistes, nous sommes des porte-parole, nous sommes des porte-voix, nos voix comptent énormément. Mais allons-y, disons la vérité, disons les choses telles qu'elles sont, mais avec courtoisie.
D'accord. Merci beaucoup, Antakol, artiste de la chanson togolaise. Et aussi, vous avez également un autre volet, c'est bien sûr, vous êtes écrivaine maintenant.
Bien sûr, alors je me ferai le plaisir de vous retrouver le 4 juin à la Bibliothèque nationale à 16h.
Merci beaucoup, Antakol. Merci, Sami Orosama, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste politique et aussi défenseur des droits humains. Merci à Germain Pouli d'être passé dans cette émission. Vous êtes directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'être passé. Gabin Diarro, analyste politique. Merci d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes juriste aussi. Firmé Takouagbo, chroniqueur politique. Merci d'être passé dans cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous qui nous avez appelés aussi. Merci à vous. Merci à Michel Toubiga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Moi, je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien, vous passez un bon week-end. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.